Bonjour et bienvenue dans Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Jésus a raconté des paraboles pour nous aider à mieux comprendre notre monde avec son lot de mystères et d'interrogations. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons sur le sens de l'une d'elles, celle nommée la parabole de la mauvaise herbe.
Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30. Notre lectrice Sandra va la lire.
Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux, comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, » répondit le maître, « car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. » Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier.
Alain est de retour parmi nous pour nous expliquer le sens de cette parabole. Bonjour Alain.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous nous sommes penchés sur la question des serviteurs. Veux-tu que nous arrachions cette mauvaise herbe ? Et sur la réponse négative du maître. Nous avons alors appris que cette parabole nous exhorte, toutes les fois que nous sommes confrontés au mal et au malheur, à attendre patiemment le retour de Jésus-Christ. Cependant, nous avons aussi compris, à la lumière d'autres textes bibliques, qu'il ne s'agit pas d'une attente passive ni fataliste. Le chrétien peut, en effet, combattre le mal, sans nullement avoir recours à la violence, mais en utilisant des armes, telles que l'amour, la prière et l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander à quel point l'influence positive du chrétien, comme de l'Église, peut changer les choses. La parabole lue nous donne-t-elle des indices?
Oui, elle en apporte. Elle nous exhorte à demeurer confiants en Dieu tout en étant réalistes.
Expliquez-vous davantage.
La parabole que nous étudions nous présente deux sortes de plantes poussant dans le champ, toutes deux présentes au moment de la moisson. Autrement dit, l'Église sera présente au moment du retour de Jésus-Christ. Mais à côté d'elle se trouvera une multitude de personnes s'obstinant à pratiquer le mal. Alors pourquoi pouvons-nous rester confiants? Parce que dans la parabole lue, le blé n'est pas anéanti par les mauvaises herbes. Et pourtant, lorsque les serviteurs découvrent que l'ennemi de leur maître les a semés, ils semblent angoissés. Cette réalité les affole. Cependant, la fin de l'histoire révèle que malgré tout, une bonne récolte est effectuée. De même, les chrétiens peuvent s'interroger sur l'avenir de l'Église. De façon incessante, ils subissent les diverses attaques de l'ennemi. Parfois, les Églises semblent si faibles et si vulnérables que l'on peut se demander si elles survivront face à la marée de maux qui s'abattent sur elles. Cependant, cette parabole nous rassure. L'Église survivra jusqu'au retour de Jésus-Christ, car Dieu accomplira tous ses desseins envers elle et il protégera les siens. Alors ne soyons pas inquiets. Le diable peut s'acharner contre nous, mais jamais il ne triomphera, jamais non plus il ne réussira à anéantir l'Église.
Et Jésus confirme ses propos dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 18, lorsqu'il déclare « Je construirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elles.
Dans les moments difficiles, nous pouvons nous appuyer sur ces promesses. Elles ont le pouvoir d'apaiser nos cœurs, de fortifier notre confiance et surtout de renouveler notre espérance.
Merci Alain. Vous venez de nous parler de promesses merveilleuses que cette parabole nous confie. Mais vous vouliez aussi introduire une note réaliste, me semble-t-il.
Oui, je voudrais mettre les uns et les autres en garde contre une attitude trop triomphaliste. Certains croient que le royaume de Dieu, avant de s'établir, va progresser de victoire en victoire. Il est possible de trop attendre de Jésus-Christ, de penser que maintenant il va apporter la paix et la sécurité, la santé et la prospérité, de croire que maintenant il va chasser tous nos ennemis et nous délivrer de leur emprise. Autrement dit, nous pouvons désirer qu'aujourd'hui Jésus réalise ce qu'il a promis d'accomplir le jour de son retour.
Et si nos attentes ne se réalisent pas, nous pouvons en être déçus et fort perplexes.
Certains peuvent alors en arriver à se détourner de Jésus-Christ et voir leur foi ébranlée simplement parce qu'ils ont reçu un enseignement leur présentant une vision trop optimiste et triomphaliste qui revêt en fait une vision erronée des choses.
Et comment la parabole des mauvais herbes peut-elle nous aider à corriger cette vision fausse de la foi?
Elle nous aide à séparer la réalité dans cet âge présent des promesses que Jésus va accomplir dans l'âge à venir lors de son retour. Cette parabole nous présente le blé qui pousse en même temps que les mauvaises herbes. De même, dans cet âge présent, le chrétien doit cohabiter avec ceux qui pratiquent le mal. Puisque nous côtoyons le mal de si près, cette situation engendre forcément des conséquences désagréables et douloureuses dans nos vies. Malheureusement, dans cet âge présent, nous ne pouvons pas échapper à un tel contexte. Nous devons apprendre à vivre avec cette réalité et ne pas donner l'impression aux autres qu'il en sera autrement. Toutefois, la parabole affirme très clairement que le jour viendra où Jésus séparera les croyants de ceux qui pratiquent le mal. Ce jour appartient à l'avenir et nous espérons qu'il est proche. C'est dans ce jour-là que nous serons entièrement délivrés du mal et de la souffrance qui en découle et non avant. C'est en ce jour-là que nous entrerons dans la vie éternelle et que nous éprouverons une joie et une paix sans pareil. C'est en ce jour-là que nous vivrons en bonne santé, que nous connaîtrons la sécurité et la prospérité. C'est en ce jour-là que tous nos ennemis, qu'ils soient spirituels ou humains, disparaîtront.
Il s'agit d'une espérance merveilleuse.
Oui, mais nous devons rester réalistes en ne nous attendant pas à ce que Jésus accomplisse aujourd'hui ce qu'il a promis de réaliser dans l'avenir. Il est vrai que dès à présent, le Seigneur peut accomplir des merveilles en nous et autour de nous. N'oublions jamais toutefois que tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, le mal et la souffrance seront toujours présents dans le monde. Pour endurer cette réalité, résister au mal, nous devons continuellement fortifier notre espérance en Jésus, tout en attendant patiemment son retour.
Merci Alain. Nous arrivons en fait à la fin de notre étude sur cette parabole. Nous vous remercions pour votre participation et les encouragements si précieux que vous en avez tirés.
Merci Yann et au revoir à tous.
Merci Alain pour vos enseignements clairs et instructifs. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Notre invité Patrick va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera, dans un premier temps, la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elle, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, il nous parlera de la fidélité.
Lorsque Paul évoque la fidélité comme fruit de l'esprit, il pense probablement aux relations entre frères et sœurs au sein de l'Église. Toutefois, la fidélité est primordiale dans les relations humaines. Qu'elle soit exprimée envers les membres de la famille, les amis ou les collègues de travail, il convient donc de se demander la façon dont nous pouvons exprimer notre fidélité dans chacun de ces contextes. Lorsque nous avons réfléchi sur la manière dont Jésus s'est montré fidèle envers Dieu et les hommes, Nous avons remarqué tout d'abord que son amour envers ceux qui l'entouraient était constant, inconditionnel. De plus, Jésus tenait ses engagements et toutes ses promesses. Nous avons alors réfléchi à la façon dont nous pourrions nous exprimer une telle constance à travers nos sentiments et nos actions. Aujourd'hui, toutefois, nous allons nous demander si nous pouvons réellement être des personnes dignes de confiance. Écoutons les paroles de Jésus trouvées dans l'évangile de Luc, chapitre 14, versets 28 à 30. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin? Sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ces paroles nous conseillent de réfléchir sérieusement avant d'assumer de nouveaux engagements ou de responsabilités dans nos vies. Nous ne devons pas prononcer de promesses à la légère sans réfléchir si nous pouvons réellement les réaliser ou non. Nous devons être à la hauteur de ce que nous affirmons. Sommes-nous prêts à suivre Jésus? Sous le coup de l'émotion, nous pouvons assurer que nous désirons devenir son disciple et que nous ferons des exploits en son nom. Cependant, Jésus nous conseille de réfléchir à un tel engagement, de considérer au préalable ce qu'une décision de cette importance nous coûtera réellement en temps et en énergie et éventuellement en douleur et en persécution. Celui qui est fidèle suivra Jésus. Il tiendra ses engagements de disciple, quelles que soient les circonstances. Toutefois, lorsqu'une personne nous demande de réaliser un projet ou autre chose, il convient, avant de lui répondre oui, de se demander si vraiment nous allons le faire, si vraiment nous pouvons répondre à sa demande. Il faut tenir compte de ce que cela nous en coûtera. Une personne fidèle ne dira pas oui à la légère si elle n'a pas l'intention ou la possibilité d'honorer sa parole.
Merci Patrick pour ces conseils importants sur la fidélité. Notre série sur le fruit de l'esprit va s'arrêter là un certain temps. Il nous reste, il est vrai, deux autres qualités à étudier. Qualités que l'esprit désire produire dans nos vies. La douceur et la maîtrise de soi. Nous en reviendrons un jour pour en parler. Sur ce, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.